le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Le précédent billet nous parle d'une très grande habileté donc de la part du système, à savoir détourner le questionnement initial de son fondement. Certes, mais ce n'est pas tout. Il est dit dans ce texte que les habitudes comportementales, tout autant que les convictions, peuvent être réorientées, voire changées, par un système d'endoctrinement adéquat. Reste qu'il ne faut pas oublier au passage de mentionner l'évolution des outils de l'endoctrinement qui, désormais eux-mêmes, génèrent déjà des modifications comportementales et doctrinaires significatives. Que l'on songe par exemple à l'impact généré par l'avènement de l'ordinateur dans le champ de ces modifications comportementales, et où l'interaction proclamée tend de plus en plus à muer en une forme d'immobilisme social consommé. Mais il ne sera pas très utile de se répandre sur le sujet dans ce préambule. L'article des cyber-résistants trop euphoriques, écrit également par Serge Halimi et paru dans le Monde diplomatique d'août 2000, s'en charge. Par contre, ce qui est peut-être intéressant à relever est que cet article, écrit en 2000, juste après la désormais légendaire menace de bug mondial, met en évidence le fait qu'au beau milieu de l'euphorie généralisée en ligne, existait déjà clairement une position critique que cet article, entre autres, illustrait et qui, comme de coutume, n'a été que très peu entendu et écouté. Aussi, la relative pléthore actuelle existant en matière de critique technologique dans le monde littéraire doit être relativisée dans son évolution temporelle. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce soudain déferlement d'ouvrages critiques s'explique aussi peut-être par le fait d'un nombre sans cesse croissant depuis cette époque de désenchantés de l'enchantement technologique. Sur cette hypothèse, écoutons ce que cet article nous révèle au sujet de la résistance en ligne.
Seattle, Washington, Mio, demain Prague. Chaque nouvelle manifestation contre la mondialisation semble rythmée par la musique d'Internet. Au point que certains contestataires, eux-mêmes branchés, se font les propagandistes d'un moyen de communication dont les principaux effets économiques et sociaux installent l'ordre plus souvent qu'ils ne le bousculent. Une fois l'engouement technophile passé, ils risquent également de découvrir que les formes de mobilisation progressiste les plus efficaces et les plus démocratiques ne sont pas nécessairement les plus modernes. Il fallait s'y attendre, Internet permettant à la fois d'acquérir des actions et de programmer ses vacances, d'entrer dans une bibliothèque et de gérer sa correspondance, un jour, le réseau des réseaux ne pouvait manquer d'être aussi célébré comme instrument de résistance à la mondialisation. Les réfractaires à la pensée dominante ne sont pas automatiquement prémunis contre l'ébriété des utopies numériques que la non-pensée journalistique charrie par vagues ininterrompues. Les apports mêlés de l'histoire, de la sociologie et de l'économie n'ont cependant pas été invalidés par les nouvelles technologies. Et pour qui veut combattre l'ordre des choses, la connaissance des débats ayant accompagné l'évolution du syndicalisme reste sans doute plus déterminante que la capacité de créer une liste de diffusion électronique. Faute d'en être conscient, certains cyber-résistants trop BA encourent un triple risque. Celui de traiter avec légèreté la question du lieu pertinent de l'action revendicative, entreprise, État, planète. Celui de confondre les personnes qu'ils peuvent contacter le plus commodément avec celles qui auraient le plus intérêt à un autre monde. Celui, enfin, de négliger l'impératif de l'organisation et de voir alors se dissoudre leur projet de transformation sociale dans un océan d'initiatives incantatoires promptement avortées. Scander « réseau, réseau, réseau » en sautant sur sa chaise ne répond pas tout à fait, on le verra, à ces trois objections-là. Mais sans qu'il soit nécessaire d'entonner le discours glorifiant une fantasmatique opinion publique mondiale, comment ne pas admettre que, depuis l'échec de l'accord multilatéral sur l'investissement en 1998, les adversaires de la mondialisation ont su imposer leur présence. Leur combat, marqué du sceau d'une double défiance contre le caractère dissimulé des décisions économiques, contre la complicité et les silences du journalisme de marché, a mis en lumière les enjeux commerciaux, financiers et sociaux de la marchandisation du monde. La vieille aspiration des communards en a presque retrouvé quelques couleurs. précisant sa conception de la démocratie aux électeurs, le comité central de la garde nationale de Paris indiquait, en effet, le 22 mars 1871, « Les membres de l'Assemblée, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables. Quand nous pourrons avoir les yeux partout où se traitent nos affaires, partout où se préparent nos destinées, alors, mais alors seulement, on ne pourra plus étrangler la République. » Ainsi, à gauche, une organisation anti-autoritaire du monde, débarrassée des verticalités bureaucratiques de l'État, n'est pas sans résonance historique. En leur temps, Jean Jaurès ou Pierre-Joseph Proudhon célébrèrent le rôle émancipateur, parce qu'éducateur, des mutuelles, des fédérations et des coopératives. Et, saluons les pratiques démocratiques de la Commune de Paris avec la conscience que n'importe quel moyen ne servirait pas n'importe quelle fin, Karl Marx précisa dès 1871 « La classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre, tel quel, l'appareil d'État et de le faire fonctionner pour son propre compte. » Il convenait au contraire d'éliminer le vieil appareil d'oppression. Or, essayer de le faire ou, à tout le moins, espérer le marginaliser, n'est-ce pas aussi cela, la promesse d'Internet ? On est tenté de le croire. Chaque fois que les responsables des organisations économiques internationales éprouvent le regard acide de la contestation. Ainsi, M. James Wolfensohn, président de la Banque mondiale, se lamente. La capacité d'organiser des gens a formidablement augmenté. L'information a un grand impact, même si elle est fausse. Partout où je vais, il y a maintenant des gens qui disent que nous assassinons des enfants, que nous détruisons l'environnement et que la Banque mondiale fait chaque année des milliards de dollars de bénéfices qui sont redistribués aux pays riches. Or, l'information qui fait gémir M. Wolfensohn et qui perturbe la tranquillité de ses pérégrinations, sourd d'Internet beaucoup plus souvent que des grands périodiques de la planète. Alors, vive le réseau des réseaux. Répondre impose dénoncer un truisme. Internet n'a pas pour principal effet de permettre aux adversaires du néolibéralisme de s'adresser au monde. Susceptible, comme tout moyen de communication, l'imprimerie, les routes, le chemin de fer, de faciliter une mobilisation contestataire, l'instrument est actuellement au service du nouvel ordre planétaire. Réclamer le perfectionnement de l'outil au nom de ces virtualités démocratiques devrait donc obliger à réfléchir aux effets de domination, consumérisme, contrôle social. Quand l'état actuel du rapport de forces économiques, un tel perfectionnement risque d'induire et d'irradier. Si chacun s'illumine à l'énoncé du mot « réseau », ce qui éveille chez les uns un rêve d'internationalisme social déchaîne chez les autres, infiniment plus puissant, des appétits d'interconnexion marchande. Un tel enchâssement du libertaire et du libéral constitue au demeurant la marque de notre époque. Il est à la fois représentatif de la génération de centre-gauche au pouvoir en Occident, messieurs Clinton, Blair, Schröder, etc., de la vulgate des politiciens les plus dorlotés par les médias, monsieur Cohn-Bendit, et de la métamorphose subie par Internet au cours des ans. Et c'est dans un tintamarre idéologique que se côtoie, quand il ne s'épaule pas, une nuée de points de vue techno-béats. Un député français qui célèbre le « passage d'une démocratie intermittente à une démocratie en continu » enchaîne en évoquant la possibilité de voter par téléphone mobile dans le cadre d'un projet en partenariat avec Matra et Nokia. Puis conclut sobrement « la e-démocratie peut vaincre la désaffection du politique ». Saluons la Chine, où le web est devenu un véritable mouvement économique et social. Un hebdomadaire publicitaire n'omet pas d'identifier les premiers bénéficiaires du mouvement social. AOL, Yahoo, Cisco, Compaq, Intel et surtout les gros investisseurs de capital risque. L'allégresse doit décidément être universelle pour que les affaires de Cisco soient aussi celles de la démocratie planétaire. Dès 1994, le vice-président américain Albert Gore nous avait annoncé le nouvel âge athénien de la démocratie. 6 ans plus tard, certains adversaires de la mondialisation croient bon de lui emboîter le pas en estimant qu'Internet booste le retour en citoyenneté. Et sans doute grisée par le rassemblement de 10 000 femmes à Paris, une militante française prophétise « Le féminisme a toujours été international, mais réservé aux riches. Grâce à Internet, les choses changent et toutes les femmes peuvent faire la démonstration de leur force tranquille. » L'actuel bric-à-brac de clichés journalistiques, e-démocratie, e-élection, politique.com, citoyens interactifs, etc., n'est pas sans rappeler l'ancien discours sur les radios libres, dont la genèse associative ne résista pas longtemps aux tentations mêlées des recettes publicitaires et de l'introduction en bourse. Alors ne s'agirait-il pas à nouveau de relégitimer, de recharger en démocratie et en citoyenneté un système chaque jour plus oligarchique et inégalitaire ? Armand Matelard l'a souligné, la techno-utopie se révèle une arme idéologique de premier plan dans les trafics d'influence en vue de naturaliser la vision libre-échangiste de l'ordre mondial. Il faut la myopie des techno-libertaires pour prêter main forte à la représentation simpliste d'un État abstrait et maléfique, opposé à celle d'une société civile idéalisée, espace libéré de la communication entre individus pleinement souverains. D'ailleurs, au prétexte de créer un environnement adéquat au développement d'Internet, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, vient de s'empresser de dépoussiérer sa litanie d'ordonnances néolibérales, concurrence, start-up, capital risque, adaptation des marchés financiers aux firmes innovantes, fiscalité incitative. La connexion des cyber-résistances serait-elle à ce prix ? Mais, au fait, qui reçoit Internet ? Deux enquêtes françaises récentes nous répondent. Il s'agit d'individus bien insérés socialement, les évolutions récentes de l'économie leur sourient. Et s'en serait-on douté ? La représentation des internautes ouvriers reste minuscule. Devront-ils, eux, loin des clameurs numériques, continuer à communiquer en menaçant de faire sauter leur entreprise ? Ailleurs sur la planète, la situation n'est pas différente. D'après le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement, si la population mondiale comptait 2,4% d'internautes en 1999, il n'était que 0,8% en Amérique latine et aux Caraïbes, 0,1% en Afrique subsaharienne, 0,04% en Asie du Sud. Le même rapport conclut « Pour l'heure, Internet ne bénéficie qu'aux individus relativement aisés et instruits. 88% des internautes vivent dans des pays industrialisés qui, ensemble, représentent à peine 17% de la population mondiale. Les personnes qui sont branchées, au sens premier du terme, disposent d'un avantage écrasant sur les pauvres qui n'ont pas accès à ces moyens et qui, par conséquent, ne peuvent pas faire entendre leur voix dans le concert mondial. Les réseaux mondiaux relient ceux qui en ont les moyens et silencieusement, presque imperceptiblement, excluent tous les autres. Dans ces conditions, gaver son disque dur d'informations puis les diffuser à une adresse électronique au Pérou, en Inde, sur trois campus américains, peut certes à la fois donner l'illusion d'un maillage mondial, d'une équivalence entre détention d'informations et passage à l'action, légitimer l'absence de pensée stratégique et permettre de substituer à la question de l'articulation des luttes celle de leur juxtaposition. Mais on est loin de la démocratie planétaire. La tentation de signifier leur congé historique aux catégories populaires et de réserver aux tribus aisées à la fois l'exercice du pouvoir et le pouvoir de le contester ne date pas d'hier. Il y a un quart de siècle, Christopher Lasch fut l'un des premiers à décrypter le discours pseudo-radical qui, prétextant l'apparition de nouveaux mouvements sociaux généralement portés par les classes moyennes, alors que s'exacerbaient diverses pathologies, nationalisme, racisme, sexisme, autoritarisme, homophobie, invariablement associées à la classe ouvrière, permis de légitimer l'exclusion politique et sociale des dominés. Aujourd'hui, le culte obsédant du mondial, de la mobilité, du nomadisme, débouche sur le même résultat. Les grands ne tiennent pas en place, les petits restent sur place. L'immobilité des uns est nécessaire à la mobilité des autres. En demeurant sur place, les petits y assurent la présence des grands, qui ne peuvent être partout en même temps et entretiennent, pour eux, les liens qu'ils ont tissés. Dès lors que, selon Manuel Castells, les modalités les plus sophistiquées de la communication interactive demeureront l'apanage du segment le plus instruit et le plus aisé de la population des pays les plus riches et les plus instruits, qu'en est-il des formes de mobilisation traditionnelles ? En étudiant les 10 000 manifestations annuelles organisées en France dans les décennies 80 et 90, Olivier Filleul a établi que les modes d'engagement politique avaient moins changé qu'on ne le proclame. Et il a largement infirmé l'idée, diffusée dans les médias et le discours savant, que les partis politiques et les syndicats ne jouaient plus autant qu'avant leur rôle de médiateur des intérêts. D'une part, l'activité protestataire ne se caractériserait pas par une extrême fluidité, les individus s'engageant et se désengageant en fonction des circonstances. D'autre part, elle ne se situerait pas en dehors des entrepreneurs traditionnels de mouvement, puisque, au nombre des groupes qui sont le plus souvent descendus dans la rue, les ouvriers viennent largement en tête. Enfin, les plus importantes mobilisations sont celles défendues par les syndicats de salariés. Les mobilisations dites post-matérialistes ne font pas vraiment recette, qu'il s'agisse des actions liées aux mœurs, à l'environnement, au droit à l'avortement, antimilitaristes ou même de politique générale, elles sont essentiellement portées par des micro-mobilisations. Un prélat de la nouvelle aristocratie bohémienne et bourgeoise nous l'a pourtant annoncé. Nous nous socialiserons à l'intérieur de quartiers numériques dans lesquels l'espace physique ne sera plus pertinent. Il est heureusement probable que l'action revendicative, elle, continuera à se mener ailleurs et à impliquer des expériences collectives vécues ensemble physiquement. Réunions, manifestations, banquets, distribution de tracts ou de journaux, foules. Comme par exemple celle non numérisée de novembre-décembre 1995. Toutes situées sur un territoire façonné par une histoire, agissant pour et avec des catégories sociales lourdes, peu mobiles, mal branchées, et qui n'attendent pas des technologies qu'elles les sortent de leur isolement, et qui continueront de résister, non pas parce qu'elles seront enfin reliées aux nœuds des réseaux planétaires, mais parce que leur expérience sociale, leur pratique militante, leur intelligence du monde leur a fait comprendre l'urgence de ne pas accepter une révolution numérique dont le principal effet serait de perpétuer le pouvoir des marchands et des maîtres. Thank you.
Thank you.